Les balados. Les balados du devoir. Dans la bibliothèque d'Isabelle Hudon. Dans la bibliothèque d'Isabelle Hudon. Hyperactive et entêtée, Isabelle Hudon est continuellement en mouvement, mais elle s'arrête parfois pour lire. L'ex-présidente de la Chambre de commerce de Montréal, aujourd'hui présidente de la financière Sun Life pour le Québec et présidente du conseil d'administration du collectif des festivals montréalais, ne se fait pas prier pour se perdre dans les bouquins que ses amis lui suggèrent, surtout si la complexité de la condition humaine y est mise en exergue. Un parc de Montréal en été, une femme en mouvement, des livres dans deux sacs réutilisables.
Ce livre de poche était sur le mur des recommandations et j'ai été attirée par le titre. Je sais pas, je devais être dans un élan de romantisme quelconque. Parce que je t'aime, un roman écrit par Guillaume Musso. J'avais jamais entendu ce titre et je ne connaissais pas l'auteur. Et j'ai dévoré ce roman, mais mon petit livre de poche, là. J'ai découvert un auteur et depuis, j'ai lu tout. Et c'est un auteur qui ressemble beaucoup à un autre auteur que j'aime beaucoup, Marc Lévy. Ils sont d'ailleurs en France, ils sont toujours le numéro un ou le numéro deux dans les bons vendeurs. Guillaume Musso pousse la fiction un peu plus... Non, de façon différente que Lévy. Lévy la pousse loin, la fiction, mais... Alors ça, c'est l'histoire en 300 pages qui résume très bien l'amour inconditionnel que l'on peut vivre avec un enfant et qui ne se répète pas avec autre. Alors, en 300 pages, un couple qui réussit très bien dans la vie, qui ont une petite fille, et la petite fille, du jour au lendemain, disparaît. Et c'est la quête de la vérité. Avant la quête de la vérité, c'est la descente aux enfers pour le couple, les deux et individuellement. Et un peu de fiction, mais tout au long du livre, c'est l'amour inconditionnel. Comme mère d'un fils de 14 ans, moi, j'ai toujours dit, je me souviens de la première fois que je l'ai dit en discours et mon conjoint était dans la salle, moi qui adore travailler, qui carbure au travail, je dis que la vie, en m'ayant donné un fils, m'a poussée à un certain équilibre et qu'il n'y a que mon fils pour me ramener à la maison à tous les soirs. La première fois que mon conjoint entend ça, je pense qu'il a trouvé ça ordinaire, là, mais bon. Le père écrit à sa fille, ma fille, « Lorsque tu liras cette lettre, mes forces seront épuisées. J'espère que tu n'en m'en voudras pas. J'ai préféré t'éviter des adieux inutiles. » Enterrer son père une fois, c'est déjà bien assez. Quand tu auras lu ces derniers mots, sors de chez toi quelques heures. Ils viendront me chercher et j'aime mieux que tu ne sois pas là. Ne rouvre pas cette boîte, j'y dors paisible grâce à toi. Ma Julia, merci de ces jours que tu m'as offerts. Cela faisait si longtemps que je les guettais, si longtemps que je rêvais de faire la connaissance de la femme merveilleuse que tu es devenue. Je n'ai plus qu'une chose à te demander. Promets-moi d'être heureuse. Marc Lévy a quelques années de plus que Guillaume Musso, mais même style, un peu de fiction, pas de science-fiction, mais de fiction. On le sait que c'est pas vrai, mais on y croit quand on le lit. Et celui qui m'a le plus marqué, c'est celui qui est publié toujours chez Lafon, Toutes ces choses qu'on ne sait pas dites. C'est un roman qui parle et qui traite de la relation père-fille. La complexité, la haine, l'amour entre un père et sa fille. La couverture m'a interpellée également. On semble voir une série de vieilles lettres non lues avec le titre, je trouvais assez intriguant. Le thème de la relation père-fille m'intéresse, m'intrigue, m'interpelle. Je ne savais pas en achetant le livre initialement que c'était ce thème en détail que l'auteur abordait. Mais rapidement, après les premières pages, c'est probablement ce qui m'a fait mordre dans le livre. Marc Lévy et Guillaume Musso, souvent on dit d'eux qu'ils sont effectivement légers à l'eau de rose. Il est vrai qu'ils abordent des sujets très difficiles, pas à la légère, mais simplement. C'est peut-être la simplicité de leur écriture qui leur rend malheureusement cette réputation à laquelle moi je suis pas d'accord. Là. On peut pas lire du Proust tous les jours. Et mon fils, qui est en secondaire 3, son professeur de français a décidé de leur faire aimer la lecture à travers Lévy. Et mon fils, qui est un joueur de hockey, qui a pas beaucoup l'attention profonde, a lu 3 livres dans un trimestre de Lévy. D'ailleurs, je disais à mon fils, moi, j'ai grandi à Beauharnois et j'ai fait mon école secondaire dans une polyvalente, à la polyvalente de Beauharnois. Là, peut-être que le directeur de la polyvalente ou les gens de la commission scolaire apprécieront pas ce que je veux dire, là, mais je me souviens, là, je pense avoir été obligée en 5 années de secondaire d'avoir lu 2 livres. Mon fils, depuis sa première année de secondaire, il doit être rendu à une douzaine de livres. Et il me cite des auteurs que je ne connais pas. Puis il me dit, ben voyons donc, c'est un auteur très célèbre du 17e ou du 18e. Et j'essayais de lui expliquer la richesse derrière cette obligation scolaire. Je pense qu'il commence à l'apprécier, mais quand même, comme un petit gars de 14 ans peut l'apprécier. Gilles Courtemanche. Aïe, aïe, aïe. Son autofiction, Je ne veux pas mourir seule. Dur. Dur livre. Je le trouve dur sur lui-même, mais également dur sur celle qu'il aime, mais avec qui il n'est plus. C'est un livre qui parle de la vie, de la mort, de la vie, de la mort, de la vie, de la mort. D'ailleurs, on le sent bien entre les deux. Puis est en train de faire la paix, je suppose, avec la vie avant d'entrer dans la mort. Ben, c'est l'histoire de sa vie, hein? C'est une autofiction, l'histoire de sa vie. Moi, je sens pas qu'il laisse des détails de côté et je sens pas qu'il invente des détails non plus. On sent bien qu'il y a un côté très vrai, authentique. Alors, à la fin de la page 131, il dit ceci à son ex-compagne ou de son ex-compagne. Je suis encore ambivalente. Tu n'aimes pas qu'on ait besoin de toi. Tu aimerais que nous soyons tous aussi solides que toi, tu l'es en apparence. Le besoin n'est pas la dépendance, ma chérie. C'est la reconnaissance de la force et de la richesse de l'autre. Ce n'est pas non plus un jugement négatif sur soi, un aveu de faiblesse. C'est l'acceptation du fait qu'exister seul et sans besoin d'un autre est une forme de pauvreté ou d'orgueil mal placé. Je sais pas, je pense que je me suis mis dans sa peau à elle quand j'ai lu ce texte-là. Je partage ma vie avec un homme qui a 20 ans plus que moi, donc il y a peut-être une réalité à laquelle je peux un peu plus m'associer. Puis je me suis mis dans sa peau à elle. Est-ce que c'est parce que je suis une femme? Puis j'avais au début un malaise de le voir aussi transparent et tranchant. Mais c'est ce passage-là qui me... Ouh! S'il fallait que mon ex-conjoint m'écrive ça, je sais pas comment je réagirais. J'ai décidé de lire ce livre-là suite... pas à la publicité, mais au nombre de personnes qui ont parlé publiquement de ce livre-là, aux critiques littéraires également. Je pouvais pas m'empêcher. Oui, c'est un auteur qui est présent dans nos vies. Mes parents lisent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mes parents sont les deux du milieu de l'éducation. J'ai toujours été... c'est drôle, la semaine, mes parents ne lisaient pas. Ne lisent... Bien, maintenant, ils lisent, oui, mais ne lisaient pas quand ils travaillaient. Mes parents ont une maison de campagne à Val-David. Aussitôt qu'on arrivait à Val-David, sur la table à café, il y avait toujours, fréquemment, une vingtaine de livres, romans, livres d'histoire en attente de lecture. Ensemble, c'est tout. Je serai pas trop intellectuelle dans mes propos, là, mais moi, la couverture m'interpelle.
d'un livre?
J'aime lire un livre. Je ne sais pas si un jour je vais être capable, probablement, là, mais que je vais être capable de lire un livre sur un soutien électronique. J'aime l'odeur des pages, j'aime tenir un livre, mais j'aime également les couvertures d'un livre. S'il n'y avait qu'un seul mot, c'est simplicité. Il n'y a pas de fiction ici. C'est la vraie vie. Moi, j'ai vécu en France 18 mois. J'avais des parfums, des effluves de la France. J'avais des images parfaites, des appartements qu'elle décrit très bien, les petits restos, les brasseries, les villages à l'extérieur de Paris. Là, j'étais capable de tout voir. Là, il n'y a pas de fiction. Mais en même temps, puis moi, j'ai vu le film après... quel est son prénom? Audrey Tautou, qui joue le rôle principal. J'ai également adoré le film, mais le livre m'a amené bien ailleurs. C'est l'histoire de la vie de quatre personnes, sans histoire vraiment. C'est bête à dire, là, mais c'est des personnes qui ne sortent pas du lot. Ce ne sont pas des leaders publics, ce ne sont pas des grands performants, ce ne sont pas... C'est des gens qui ont connu la misère et qui connaissent la misère, mais qui, ensemble, à travers leur misère, décident de se faire une vie, la leur. Il y a quelques lignes qui, d'après moi, représentent bien ce roman. Il frottait son menton sur son crâne. « Allez, ma puce, t'inquiète pas, on va y arriver. » On fera pas mieux que les autres, mais on fera pas pire non plus. On va y arriver, je te dis. On va y arriver. On n'a rien à perdre, nous, puisqu'on n'a rien. Ça résume pas les 600 pages, mais ça donne le ton. Et ce sont des gens qui ne sont pas envieux, mais qui ont le goût d'être heureux. Donc, ils veulent pas voler le bonheur de quelqu'un, mais ils veulent se donner un bonheur. Mais étant donné que c'est des gens qui ont vécu des souffrances, souvent, les personnes qui ont vécu des souffrances ont une certaine difficulté à accepter de faire entrer le bonheur dans leur vie. La prophétie des anges. Moi, je l'ai lu en anglais. C'est « The Celestine Prophecy ». C'est de l'auteur James Redfield. Ça a été dans les années, je pense, fin des années 80, début des années 90. C'était un des bons vendeurs. Et c'est à la fois spirituel et un peu religieux, mais c'est le retour au Pérou pour retrouver un texte qui est la prophétie, un texte dans les Andes. Dans ce livre-là, dans le premier, il y a 9 prophéties. Il y en a une 10e qui tient dans un seul bouquin, mais moi, j'ai pas lu la 10e. C'est la première qui m'a marquée, qui dit que dans la vie, il n'y a pas de hasard. J'ai lu ce livre-là, j'étais en France, j'ai vécu 18 mois en France. Je vivais à Barbizon, dans une petite fermette rustique, non loin de Fontainebleau. Sans le sou et sans boulot. Et depuis que je l'ai lu, que je cite ce livre-là en disant qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Les gens qu'on rencontre, on décide de les rencontrer, mais on ne les croise pas pour rien, ou elles ne nous croisent pas pour rien. Et là, le travail que j'ai dû faire dans les derniers jours, c'est de trouver le passage un petit peu plus terre à terre dans le livre. Et il vient à la fin, à la page, à la toute fin, dans les 50 dernières pages, où l'auteur revient sur le thème de la coïncidence, des coïncidences qui n'existent pas, et qui dit « Mettez-vous bien ça dans la tête. Toute personne qui croise notre route a un message pour nous. Sinon, elle aurait choisi un autre chemin ou serait partie plus tôt ou plus tard. » La présence de ces gens indique qu'ils ont une raison d'être là. Et moi, j'y crois, parce que quand je regarde mon parcours, quand je regarde ma vie personnelle et professionnelle, je suis née sous une bonne étoile, j'ai une bonne partie de chance, je contribue à l'autre partie de ma chance, mais il y a des gens que j'ai rencontrés il y a 20 ans puis que je ne savais pas pourquoi que j'avais rencontré. Des fois, ça prend une journée, un mois, des fois, ça prend 20 ans avant de comprendre pourquoi on a croisé ces gens-là. C'est un peu spirituel, là. Mais... il m'en reste 2. C'est plus que des coups de cœur, c'est des livres qui vont voyager avec moi toujours, 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 pour les leçons apprises dans des petites plaquettes aussi accessible, facile à lire rapidement, qui t'imbibe, qui t'imprègne. C'est Rue de Kim Tsui et Oscar et la Dame Rose de Éric Emmanuel Schmitt. Pour plusieurs raisons, ça me touche, l'histoire d'une immigrante, l'histoire de cette famille vietnamienne assez aisée avant la guerre au Vietnam, qui se voient repoussés et qui fuient leur pays. Des parents qui décident de se sacrifier pour offrir plus et mieux à leurs enfants, en prenant le risque de mourir ou que quelques-uns meurent tout au long du voyage. Là, c'était l'histoire des fameux « boat people » en bon chinois, comme on les appelait. Cette femme, c'est une survivante, je vous dirais, Kim, et elle nous fait découvrir à travers ses pages les souffrances de quitter une vie aisée, les souffrances de vivre dans une cale de bateau pendant des mois. Et je pense que ces gens-là, après avoir survécu cette épreuve, je pense que tu peux survivre à beaucoup de choses dans la vie. Elle dit... Mon père avait prévu, si notre famille était capturée par des communistes ou des pirates, de nous endormir pour toujours, comme la Belle au bois dormant, avec des pilules de cyanure. Pendant longtemps, j'ai voulu lui demander pourquoi il n'avait pas pensé à nous laisser le choix, pourquoi il nous aurait enlevé la possibilité de survivre. J'ai cessé de me poser cette question quand je suis devenue mère, quand M. Vinh, chirurgien de grande réputation à Saigon, m'a raconté comment il a mis ses 5 enfants, l'un après l'autre, seuls, du garçon de 12 ans à la petite fille de 5 ans sur 5 bateaux différents, à 5 moments différents, pour les envoyer au large, loin des charges des autorités communistes qui pesaient contre lui. Il était certain de mourir en prison puisqu'on l'accusait d'avoir tué des camarades communistes en les opérant dans son hôpital. Il espérait sauver un, peut-être deux de ses enfants en les lançant à la mer. La leçon de ce livre-là, c'est la leçon du courage derrière la décision de tout quitter pour soit mieux s'offrir ou s'offrir mieux ou offrir mieux à ses enfants et ses petits-enfants. Mon fils côtoie des enfants de première ou deuxième génération d'immigrants. Ces familles-là ont décidé de quitter l'Arménie, le Liban, pour offrir mieux à leurs petits-enfants. Ils s'entassent souvent dans des petites maisons, mais dans des quartiers où les écoles sont excellentes. Donc, ils se sacrifient, eux, pour offrir une belle et bien meilleure vie à leurs enfants. Et je trouve que le passage que je viens de vous lire exprime bien. Là, prendre le risque que ton enfant meure, mais prendre le risque que ton enfant ait une meilleure vie. Et ce père-là, vietnamien, avait décidé qu'il en valait mieux mourir pour ses enfants que de continuer à vivre ainsi. Je trouve que c'est le courage. Aujourd'hui, j'ai 100 ans, comme Mamie Rose. Je dors beaucoup, mais je me sens bien. J'ai essayé d'expliquer à mes parents que la vie, c'est un drôle de cadeau. Au départ, on le surestime, ce cadeau. On croit avoir reçu la vie éternelle. Après, on le sous-estime, on le trouve pourri, trop court, on serait presque prêt à le jeter. Enfin, on se rend compte que ce n'était pas un cadeau, mais juste un prêt. Alors, on essaie de le mériter. Moi qui ai 100 ans, je sais de quoi je parle. Plus on vieillit, plus il faut faire preuve de goût pour apprécier la vie. On doit devenir raffiné, artiste. N'importe quel crétin peut jouir de la vie à 10 ou à 20 ans. Mais à 100 ans, quand on ne peut plus bouger, il faut user de son intelligence. Je ne sais pas si je les ai bien convaincus. Éric Emmanuel Schmitt, Oscar et la Dame Rose. C'est l'histoire d'un enfant gravement malade du cancer, mourant du cancer. Il n'a pas 10 ans, l'enfant. Des liens un peu boiteux avec ses parents qui ne viennent pas toujours le voir. Dans un milieu hospitalier en France où une bénévole le visite à chaque jour. Donc, Mamie Rose qui vient, qui joue le rôle de l'infirmière, de la mère, de la grande sœur, de la grand-mère. Elle lui offre pour bien vivre les journées qui lui restent. Les médecins lui donnent 10 jours à vivre. Alors, elle lui offre un peu d'entrer dans un jeu, de vivre une décennie par jour. J'ai lu ce livre-là dans un moment difficile de ma vie professionnelle. J'avais un défi, pas que je croyais insurmontable, mais difficile. Et un couple d'amis m'ont offert ce livre en me disant « Isabelle, pour que tu puisses prendre un peu de perspective, nous t'offrons cette simple plaquette. » J'ai commencé à lire tardivement, puis j'ai commencé à le faire, je pense, avec un peu de culpabilité parce que je lisais pas. Il y a un moment donné où j'écrivais de moins en moins facilement. Puis je savais très bien le lien, la corrélation entre la lecture et l'écriture. Et puis je me souviens d'avoir dit, bon, mais je vais commencer par un livre que je suis certaine que je vais aimer. Parce que c'est ça aussi, là, quand on commence à lire, il faut y aller graduellement. Il ne faut pas commencer encore une fois par Proust ou un autre livre trop difficile.
Dans ma bibliothèque, une balado imaginée est réalisée par Fabien Deglise. Présentation, Émilie Folie-Boivin. Une production, Le Devoir. Thank you.